Il est l'un des meilleurs connaisseurs de la société et de la politique américaine. Il est franco-américain, il vit à New York. Romuald Sciorra est le grand témoin de l'ordre du monde.
Que se passe-t-il en ce moment dans la tête de Donald Trump et les Américains? Que pensent-ils de la guerre en Iran? Oui, parce qu'on est à quelques mois seulement d'une date clé, celle des élections de mi-terme. Et puis, il y a une autre date clé dans la tête de Donald Trump, c'est le 4 juillet, ça sera les 250 ans de l'indépendance des États-Unis.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Bonjour Romuald.
Bonjour.
On est content de vous voir ici dans ce studio du podcast L'Ordre du Monde, puisque vous êtes un habitué de BFM Business. On vous embête souvent, vous qui vivez à New York, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, ce qui se passe dans la société américaine. Et on s'est dit aujourd'hui avec Annalisa, il est de passage à Paris, on va le kidnapper un petit peu dans L'Ordre du Monde.
Oui, il fallait absolument qu'on vous invite ici parce qu'on a énormément de questions à vous poser sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec cette guerre. Et puis parce que vous venez de publier votre livre, votre BD qui s'appelle America, une histoire
graphique des États-Unis. C'est le premier volume, né dans le sang, on vous la recommande, hein. C'est passionnant pour essayer de comprendre aujourd'hui les fractures peut-être de la société américaine, d'où est né le projet américain il y a 250 ans, et puis surtout que là, le 4 juillet prochain, et vous nous alertez depuis un an, hein, qu'il faut lire toute la politique de Donald Trump à l'aune de cette date 4 juillet où ça va être les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Romuald, pour commencer peut-être, on voit que pêle-mêle, hein, l'Amérique est en train de s'embourber en Iran. On a le Hongrois Orban, qui est une vraie source d'inspiration pour les influenceurs MAGA, qui se fait laminer en Hongrie. La Chine, qui est sur le point de devenir la première puissance économique au monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Amérique de Donald Trump est en train de douter de sa puissance?
L'Amérique de Donald Trump ne doute pas véritablement de sa puissance. En tout cas, Donald Trump, lui, n'a aucun doute quant à sa propre puissance et à celle de son pays. Non, ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont en train de s'isoler sur la scène internationale. Alors, le déclin tant annoncé des États-Unis a été amorcé il y a déjà une quinzaine d'années. Si on voulait vraiment dater ce déclin et cette perte d'influence, ce serait au moment en 2013 lorsque Barack Obama n'a pas respecté sa parole concernant de possibles bombardements sur la Syrie. Il avait lui-même tracé une ligne rouge. Si Bachar el-Assad bombardait, utilisait un certain armement, des armes chimiques contre son peuple, les États-Unis seraient intervenus. Les Britanniques ont refusé de se joindre à cette opération et Barack Obama a fait machine arrière. Et à partir de ce moment-là, cela a été la porte ouverte à la Russie en Syrie. Et de là, la plupart des experts datent le déclin, entre guillemets, hein, de l'influence américaine.
C'est-à-dire que le déclin n'est pas lié à la personnalité de Donald Trump, qu'il n'est pas républicain, c'est quelque chose...
C'est bien avant.
Non, n'oublions pas quand même qui a signé la débâcle de Kaboul en 2021, c'est quand même Joe Biden. Certes, c'est Trump qui avait passé un accord avec les talibans, mais c'est quand même Joe Biden qui a laissé les militaires américains s'enfuir devant des types assis sur des mobilettes et armés de Kalachnikov soviétique. Bref, non, le déclin s'est amorcé bien avant. Par contre, il est vrai que Donald Trump et son équipe auront donné une dynamique nouvelle à cette déliquescence et donc, sans le vouloir, hein, puisque ce n'est pas leur objectif, évidemment, donner aux États-Unis, apporter aux États-Unis plutôt une perte d'influence sur la scène internationale encore plus forte que celle qu'ils pouvaient avoir avant. Mais pour répondre clairement à votre question, les Américains, du moins ceux qui sont au pouvoir, ne doutent pas. N'oublions pas que... Premièrement, Donald Trump n'est plus un homme seul. Il faut quand même garder à l'esprit que Trump de haut n'a rien à voir avec Trump de 1. Trump 1, à l'époque, c'était un homme sans colonne politique vertébrale, isolé, mal entouré, mal élu, présidence brouillonne. Trump s'est radicalisé durant la seconde partie de son premier mandat et surtout durant les 4 années passées dans l'opposition. Années au cours desquelles il s'est rapproché de l'extrême droite américaine. Une extrême droite ultra radicale que j'appelle crypto-fasciste. Rien à voir avec notre bonne vieille extrême droite qui ferait figure de parti centriste à côté de celle que nous avons aux États-Unis. Et cette extrême droite, pour la première fois de son existence, est arrivée au pouvoir l'année dernière, donc en janvier 2025, aux côtés de Donald Trump. Les principaux représentants de cette droite ultra aujourd'hui au pouvoir sont évidemment Jill Evans, vice-président, mais aussi Suzy Wills, secrétaire générale de la Maison-Blanche, la femme la plus puissante au monde, pour reprendre les mots de Trump, il ne se trompe pas beaucoup. Toutes ces personnes ont des objectifs très précis. Pour l'intérieur, mettre en place un régime semi-autoritaire sur le modèle de la Hongrie, de feu Viktor Orban, si je puis dire, et surtout mener une contre-révolution culturelle ultra-conservatrice. Sur l'international, cela pourrait se résumer en quelques mots, mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral instauré en 1945, c'est-à-dire nous ramener dans une ère où règne le bilatéralisme, la loi du plus fort. On fait fi des alliances traditionnelles, des traités internationaux, de la justice internationale, de l'ONU, etc.
Et décréter un conseil de paix qui est une sorte de nouvelle ONU où chaque année on fait une AG à Mar-a-Lago, quoi.
Oui, alors le conseil de paix, d'abord, il faut faire attention, selon moi, la traduction française n'est pas la bonne. On parle de conseil de paix. Non, en anglais, c'est the board of peace. Et cela a été choisi volontairement, ce n'est pas une erreur. Board, ce n'est pas conseil. S'ils avaient voulu appeler ça le conseil de la paix, ils auraient appelé ça the council of peace.
Board est un terme très,
exactement,
très business. On est sur BFM Business,
exactement.
On sait que board est un
mais voilà,
un
donc
terme
c'est choisi, la bonne traduction serait le conseil d'administration de la
plutôt.
Paix. Donc le conseil d'administration du monde. Alors évidemment, ce machin, hein, là il s'agit vraiment d'un machin dont on ne parle plus beaucoup, d'ailleurs avec la guerre en Iran, vous l'aurez remarqué, et plutôt justement une sorte de conseil d'administration du monde à la botte des États-Unis, un instrument justement pour asseoir ce nouvel ordre international où règne le bilatéralisme, la loi du plus fort, et où les États-Unis règnent, comme je le dis, en tant que superpuissance voyou, puisque aujourd'hui on assiste quand même à un comportement mafieux, voire voyou, de la part des États-Unis. Donc bref, tous ces gens-là, qui sont à la base des isolationnistes, à part Trump et Marco Rubio, ne voient pas les États-Unis en déclin, n'ont pas de doute, pour répondre à votre question, ne voient pas les États-Unis en perte de vitesse. Pour eux, tout ça n'a guère d'importance. Les États-Unis doivent s'isoler et agir sur le monde uniquement quand leur intérêt est en jeu. Le reste, l'influence, le soft power, ça ne compte pas pour eux.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de l'entourage de Donald Trump, qui est devenu un peu davantage constitué par rapport à son premier mandat, puisque en réalité, on voit que Donald Trump, avec ce conflit, risque de se fâcher très sérieusement avec sa base, qui est une base MAGA, Make America Great Again, donc qui est une base America First, et qui a un peu du mal en ce moment à comprendre pourquoi ce choix d'aller s'engager dans une guerre à l'autre bout de la planète. Je pense notamment à Tucker Carlson, qui est un podcasteur très influent aux États-Unis, qui est un ancien journaliste, peut-être journaliste encore d'ailleurs aujourd'hui, et qui a toujours été favorable à Donald Trump. Aujourd'hui, il prend de plus en plus ses distances. Est-ce que ce choix de Donald Trump d'aller se battre en Iran peut causer une fracture réelle et peut-être irréparable avec sa base ?
Oui, irréparable, peut-être pas, mais une fracture réelle. Je suis le premier à toujours répéter, arrêtons d'annoncer la mort de Donald Trump. Ça fait 10 ans que chaque fois que quelque chose se passe pas très bien pour lui, qu'on annonce sa fin. Non, là par contre la situation est différente. Trump est fragilisé comme il ne l'a jamais été. Trump s'est embarqué dans cette guerre qui est la guerre de Trump. Ce n'est pas la guerre de l'administration. Hein. Il s'y est embarqué pour des raisons de politique intérieure essentiellement. Toujours, et on en revient au 250e anniversaire, Mathieu, quand vous dites que cette date est vraiment le moment clé de cette présidence, oui. Il voulait arriver pour le 250e anniversaire des États-Unis en brandissant à la face des Américains un deal avec l'Iran qui, de toute façon, n'aurait pas pu être meilleur que celui qu'il a lui-même jeté à la poubelle. Mais il voulait arriver avec ce deal. Pour obtenir ce deal sur le nucléaire, il a mis une pression très forte sur l'Iran. Il a déployé une flotte qu'on n'a pas vue depuis 2003. Malheureusement, il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Poussé par Netanyahou, devant justifier sa gesticulation avec cette flotte devant le contribuable américain, il est entré en guerre contre l'avis de Jill Evans, qui était farouchement opposé, contre l'avis de Susie Wiles, qui chaque jour qui passait lui demandait d'instaurer un cessez-le-feu. Contre l'avis des sénateurs républicains, la plupart quand même des généraux du Pentagone. Donc il s'est lancé dans cette guerre sans aucune stratégie, et effectivement, sa base MAGA s'est sentie trahie. Trump est quand même le président qui avait promis de ne jamais entraîner le pays dans l'une de ces guerres style Irak ou Afghanistan.
D'ailleurs, J.D. Vance, quand il l'a soutenu, quand il a annoncé qu'il allait soutenir Donald Trump, il a dit qu'il le faisait parce que Donald Trump était le président qui n'avait jamais commencé de guerre. Donc c'est vraiment à la base de sa promesse électorale.
Exactement. Alors jusqu'à présent, il avait tenu parole. les bombardements en 2025, en juin 2025, en Iran, avaient été chirurgicaux, aucun soldat américain n'était tombé. À écouter Trump, le programme nucléaire était réduit en cendres. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Et au Venezuela, c'est une opération menée de main de maître. Alors évidemment, illégale au regard du droit international et du droit américain. Mais au niveau logistique, c'est un succès sans précédent. Hein. On enlève Maduro. Voilà. Aucun soldat américain n'est tué et le Venezuela semble manger dans la main du président américain. Donc sa base était rassurée. Là, c'est très très différent. Il y a eu des morts et on ne sait pas du tout où cette guerre pourrait mener les États-Unis. Donc oui, un, la base MAGA donc, se sent trahie. En parallèle de, évidemment, l'inflation galopante du prix de l'essence, etc., qui touche son portefeuille, celle-ci, pour la première fois, vraiment pour la première fois depuis plus de 10 ans, commence à se détourner du président. Et en parallèle, des influenceurs comme ceux que vous citiez, MAGA, de la première heure, qui sont des isolationnistes. N'oublions pas que ces personnes sont surtout attachées à cette idéologie MAGA qui, en fin de compte, est plus représentée par des gens comme J.D. Vance que par Donald Trump lui-même, se détournent de Trump et son entourage immédiat, donc J.D. Vance, Suzy Wills, qui, je le répète, ont un double objectif pour l'intérieur, et c'est ça qui les intéresse, hein, mettre en place un régime semi-autoritaire et contre-révolution culturelle, et ils voient leur projet entravé par cette guerre en Iran, qui pourrait se payer très très cher dans les urnes en novembre, font pression sur Trump pour que ce conflit cesse, et donc Trump, depuis quelques semaines, cherche une sortie de secours à tout prix.
Pour rester sur sa base électorale, moi je trouve qu'on a du mal à comprendre d'ici, en tout cas moi personnellement, vu de France, cette espèce de d'iconographie chrétienne dont use et abuse Donald Trump. On voit dans sa communication, il y a les photos dans le bureau ovale, tu te rappelles Annalisa, là, quand il y avait tous les évangélistes autour de lui, on avait l'impression de voir une scène, la scène du Christ, oui. dans le bureau ovale, qui a l'air d'être une tradition d'ailleurs, cette photographie qui n'est pas qu'à Donald Trump. Et puis surtout cette semaine, cette séquence où il s'est attaqué au pape, où il a publié une photo générée par l'intelligence artificielle où on le voit en messie qui guérit. Là, il a l'air d'avoir irrité une base catholique ou évangélique américaine. Ça peut vraiment lui causer du tort, non ?
Effectivement, Mathieu. Trump a commis deux bévues au cours des derniers jours. Il a joué sur la religion, comme la plupart des présidents américains depuis Jimmy Carter. Hein. La religion est entrée à la Maison Blanche en 1976 avec Jimmy Carter, qui était un évangélique. On oublie un petit peu que les évangéliques ne sont pas tous des excités d'ultra-droite. Hein. Carter, démocrate, s'il en est, était donc évangélique. Trump a joué sur le religieux essentiellement depuis la tentative d'assassinat en 2024, à l'été 2024.
Ah oui, c'est vrai qu'il postait des photos de lui Trump ressuscité.
Exactement, et il remerciait Dieu. Il y a eu des séances de prière collectives à travers les États-Unis pour remercier Dieu d'avoir sauvé Trump. Il faut dire que la balle est passée vraiment à même pas quelques millimètres. Hein. Bref.
Il a joué quand même de ce rapprochement.
Exactement. Ensuite, il a continué à jouer là-dessus, puisque évidemment la base évangélique était capitale pour son élection. Mais là, à un moment où, comme nous le disions, sa base électorale est en train de s'effriter, deux bévues de suite. Premièrement, il attaque le pape. S'en prendre au pape est évidemment très très mal perçu de la part des catholiques, quand même près de 25% de la population religieuse aux États-Unis, mais aussi de l'entièreté des chrétiens. Le pape est respecté, même par les évangéliques. On touche à une personnalité chrétienne, et donc ça a été très très mal apprécié. La réponse du pape à Trump n'a pas été très bonne pour lui, et puis surtout le blasphème, parce qu'on a parlé quand même de blasphème. Hein. Aujourd'hui aux États-Unis, on accuse le président, je le répète, de blasphème, avec cette fameuse image générée par lui-même par l'IA, où on le voit effectivement vêtu comme le Christ en train de guérir un malade.
On dit que c'était plutôt, il se voyait plutôt en médecin.
Oui,
il a dit après pour
oui, effectivement,
en guérisseur.
En
guérisseur, avec un costume qui s'apparenterait à celui de la Croix-Rouge. Enfin bon, arrêtons. Trump est mégalomane, comme on le sait, mais je crois que ça atteint aujourd'hui un sommet clinique. Bref, en tout cas, c'est une bévue. À un moment où, je le répète, il est fragilisé comme jamais. C'est sa base évangélique qui est touchée, et les catholiques, ne l'oublions pas, parce que les évangéliques voteront toujours pour lui, mais les catholiques ont un vote assez fluctuant. Pas un coup ils votent démocrate, un coup ils votent républicain, donc ce n'est pas bon pour les prochaines élections.
Romuald, vous êtes franco-américain, spécialiste des États-Unis, donc c'est pour ça qu'avec vous, on se concentre sur Donald Trump. Mais évidemment, dans cette guerre, il y a deux parties, deux pays qui sont contre l'Iran, et c'est les États-Unis et Israël. Et on a une question sur ce sujet de la part d'un de nos auditeurs, puisqu'on les avait prévenus de votre venue, donc ils nous ont posé les questions qu'ils auraient eu envie de vous poser. C'est Amédéo qui demande, est-ce que Israël va finir par se plier aux directives de la Maison-Blanche, ou est-ce que la Maison-Blanche est finalement à la traîne derrière Israël aujourd'hui? Quel est l'état actuel de l'influence d'Israël sur le gouvernement américain? Là, il vous interroge sur ces objectifs divergents des deux administrations. Qui a influencé l'autre? Est-ce qu'ils influencent finalement tous les deux?
Alors, effectivement, il y a des objectifs divergents. C'est-à-dire que les objectifs pas très clairs des Américains, mais en gros, étaient éventuellement voir le régime tomber, mais surtout de mettre fin au programme nucléaire iranien et d'obtenir d'autres concessions. Pour Netanyahou, c'est une guerre existentielle, c'est la guerre de sa vie. Surtout que s'il réussissait à faire chuter le régime de Téhéran, cela lui permettrait de quitter le pouvoir un petit peu en héros, et il espère ainsi que les juges, puisqu'il aura affaire aux juges d'ici quelques mois, soient un peu plus cléments devant le héros de la nation que devant quelqu'un qui n'aurait pas terminé le travail en Iran. Mais il ne faut pas exagérer l'influence de Netanyahou. Je le répète, Trump s'est lancé dans cette guerre. Par maladresse, il ne voulait pas de cette guerre. Il voulait obtenir le deal. Effectivement, Netanyahou a contribué à le pousser à entrer en action, puisqu'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il souhaitait obtenir. Aujourd'hui, c'est Israël qui se pliera. Israël n'a pas le choix. De toute façon, Tzahal est quand même épuisé. L'armée israélienne est sur tellement de fronts. C'est pourquoi aussi...
Depuis le 8 octobre 2023...
Exactement. Gaza, qui n'est pas terminé. Il y a quand même encore des bombardements tous les jours. Exactement, j'allais y venir. Et c'est donc pourquoi Netanyahou se concentre de plus en plus sur le front libanais. Il sait très bien qu'un deal va être passé avec l'Iran. Les États-Unis ne peuvent pas continuer cette guerre. Alors peut-être qu'il y aura encore deux jours de bombardement qui vont reprendre, mais il y aura un deal. Les États-Unis doivent se sortir de cette guerre au plus vite. De toute façon, il n'y a aucun scénario. Quels sont les scénarios? Continuer des bombardements ad vitam aeternam, le régime tient. Envoyer des troupes au sol pour se saisir l'Iran, il faudra envoyer entre 200 et 300 000 hommes. Et là, ça serait une hécatombe, c'est même pas envisageable. Donc bref, les États-Unis doivent se sortir de ce piège, et l'Iran est quand même ultra fragilisé à l'intérieur et également épuisé. Ils ont virtuellement, entre guillemets, gagné le conflit pour l'instant, mais ils ne pourront pas tenir bien longtemps. Donc cette guerre va s'arrêter, Netanyahou le sait, et donc c'est pourquoi il s'obstine sur le Liban pour rentrer à la maison avec quand même quelque chose à offrir lui aussi à ses électeurs.
Romuald, on est bientôt à quelques jours même des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Donald Trump veut fêter ça en grande pompe, ça va être le 4 juillet prochain. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez publié ce roman graphique America 250 ans qui nous raconte en images d'où viennent les États-Unis, d'où vient l'esprit des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? J'ai lu, moi, ça m'a passionné pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la tête des Américains. Est-ce que on peut revenir à ce que vous racontez dans cette BD, notamment l'esprit de Jamestown, l'esprit du Mayflower, qui nous parle pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, culturellement, on oscille toujours entre idéal et esprit de conquête?
Effectivement, c'est une bonne question. Il y a une dichotomie dans ce que l'on pourrait appeler l'esprit, l'âme américaine, si vous voulez. Ce que j'appelle l'esprit Jamestown. Alors Jamestown, qu'est-ce que c'est? Ça a été le premier comptoir anglais en Amérique du Nord, fondé en 1607 en Virginie. Jamestown a donc été fondé non pas par des pionniers qui souhaitaient s'installer pour vivre avec leur famille, mais par des colonisateurs, tout bonnement, qui souhaitaient s'implanter, profiter des ressources naturelles du pays. Et c'est à partir de là qu'a commencé le génocide amérindien, très très tôt, et l'esclavage également, puisque c'est les premiers esclaves importés, si je puis dire, aux États-Unis, l'ont été à Jamestown, en Virginie, en 1619. Donc 12 ans après la création de ce petit village, de ce comptoir anglais. Bref, Jamestown, c'est vraiment l'esprit pionnier, au bon sens aussi du terme, le courage, l'exceptionnalité dans le dynamisme de la conquête américaine, mais c'est aussi ce qui ouvre la porte, je le disais, à la conquête, au génocide amérindien, à l'exploitation des ressources naturelles, à l'exploitation de tout ce qui peut tomber sur la main, et au mercantilisme qui allait nous conduire au capitalisme débridé. Je ne parle pas d'un capitalisme à la française, comme on peut le vivre dans nos démocraties sociales libérales européennes.
Donc là, on est vraiment aux racines de
l'ultralibéralisme américain qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis sont la société la plus inégalitaire des pays de l'OCDE et où le niveau de pauvreté est le plus important. Et puis, il y a l'esprit du Mayflower. Mayflower, donc, c'est ce fameux navire qui, lui, allait voir débarquer de ses entrailles en 1620, donc 13 ans après Jamestown, les fameux Pères Pèlerins, un peu plus au nord, dans ce qui allait devenir la Nouvelle-Angleterre, ces Pères Pèlerins qui, eux, n'étaient pas venus pour conquérir, pour s'approprier au détriment d'autres personnes la terre, ni pour s'enrichir, mais qui étaient venus pour vivre en toute liberté leur religion et fonder une société plus juste. Alors, ne les idéalisons pas non plus trop. Hein. Les pères fondateurs ont donné naissance donc aux puritains, les pères pèlerins ont donné naissance un peu plus tard donc aux puritains qui, eux, allaient pendre les fameuses sorcières de Salem, qui étaient évidemment des femmes innocente. Néanmoins, c'est un autre esprit, celui de la liberté, celui de l'envie de partager, et qui est donc l'autre face de l'esprit américain. Et donc, depuis 250 ans, vous le voyez même à travers les films américains, hein, dans les films américains, les grands méchants sont toujours des capitalistes ou des banquiers qui veulent voler l'argent des pauvres États-Unis, etc., ou des gens avides de sous et de profits. Et puis, ils sont toujours sauvés par un héros altruiste qui ne s'intéresse pas à la monnaie. Ces films ont beaucoup de succès et sont vus par des gens en fait qui ne pensent qu'à l'argent. Donc c'est cette dichotomie que l'on retrouve en permanence et qui effectivement est à la base de l'histoire états-unienne et qui explique beaucoup de choses et dont Donald Trump est un digne représentant.
Et alors en 1787 donc on va avoir l'écriture de la Constitution des États-Unis d'Amérique où ils vont imaginer plein de contre-pouvoirs. Qui vont être gravés dans le marbre de cette constitution. 250 ans plus tard aujourd'hui, ces contre-pouvoirs, où ils en sont face à Donald Trump? Est-ce qu'ils les abîment vraiment?
Effectivement, c'est en 1787 que la Convention de Philadelphie a décidé de la constitution américaine. Auparavant, il s'agissait plutôt d'une confédération souple sans véritable constitution. Écoutez, ces contre-pouvoirs, la mise en place de ces contre-pouvoirs était un coup de génie. Cela fonctionne quand même depuis, bon an, mal an, quand même depuis 250 ans. Regardez le nombre de constitutions que nous avons eues en France. Hein. 5 républiques, 2 empires, 4 monarchies, etc. etc. Sans parler du régime de Vichy. Les contre-pouvoirs ont été une innovation totalement moderne dans l'histoire de l'humanité. On parle quand même de la première démocratie libérale. De l'histoire du monde. On ne se rend pas compte, aujourd'hui on critique beaucoup les États-Unis, je suis premier à les critiquer, mais ils ont quand même apporté à l'humanité un esprit de liberté qui à l'époque n'existait pas. Aujourd'hui où en sont ces contre-pouvoirs, cela a très bien fonctionné pendant plus de 2 siècles, mais comme toute chose, il y a un essoufflement, et aujourd'hui ces contre-pouvoirs sont fragilisés pour 2 raisons. Première raison, c'est que nos démocraties libérales dans leur ensemble, mais tout particulièrement celles des États-Unis, ont été créées et pensées pour des individus de la fin du 18e siècle ou du 19e siècle. Il n'y a eu aucune rénovation majeure, aucune refondation intellectuelle de nos démocraties depuis le 19e siècle, si on y réfléchit bien. Et donc évidemment, ces institutions, aujourd'hui, sont fragilisées. Et cela, c'est dû à l'érosion du temps. Deuxième raison, évidemment, c'est que depuis les années 90, nous avons vu déferler sur les États-Unis une vague ultra-conservatrice, menée par l'extrême droite dont nous parlions précédemment, aujourd'hui au pouvoir. Et c'est celle-ci qui profite de l'érosion des contre-pouvoirs, de la fragilisation de la démocratie américaine, pour les abattre, il faut bien le dire, les uns après les autres, afin d'instaurer un régime semi-autoritaire, voire autoritaire.
Merci beaucoup, Romuald, pour toutes vos réponses, pour votre expertise. On rappelle votre livre que vous venez de publier. Votre
Allez, je le montre.
Montre-le.
America 250, une histoire graphique des États-Unis. Voilà, c'est le premier tome, hein, il va y en avoir un autre.
Il y aura un autre tome, Hubris, qui sortira au mois d'octobre.
Mais d'ici là, il y a donc cette date du 4 juillet. Nous, on se reverra, je pense, d'ici le 4 juillet, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, beaucoup d'analyses à faire sur ce qui va se passer ces prochaines semaines aux États-Unis. Et Mathieu, nous, on se revoit la semaine prochaine.
On se revoit la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin dans l'ordre du monde. Très bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Salut, Annalisa. Au revoir, Romuald.
Au revoir.